Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Bonjour et bienvenue dans Europa Voice. Europa Voice avec Nathanaël Bloch une nouvelle fois. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Allez, on va parler de sujets. Ben, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vraiment couvert cet angle de l'Europe. Mais en Roumanie, on a eu une réélection. Alors, c'est pas une réélection de quelqu'un, mais c'est une deuxième élection puisqu'il y a eu quelques problèmes sur la première. On va parler de tout ça. Mais on a l'extrême droite était favorite. Extrême droite aurait pu passer au pouvoir. Ça n'a pas été le cas. Il y a encore une coalition contre. Enfin, expliquez-nous un petit peu tout ça, ce qui s'est passé en Roumanie, parce que ça a joué sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois même presque.
Oui, effectivement, Christophe. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on observe à l'est de l'Europe une espèce de mouvement de balancier. C'est-à-dire, pendant qu'on voit des partis plutôt à droite et à l'extrême droite pointer le bout de leur nez dans l'Europe et l'Union européenne historique, hein, des fondateurs de l'Europe avec des menaces à chaque fois au second tour. La France en est un parfait exemple. Avec trois fois le Rassemblement national au second tour de l'élection présidentielle, les signaux, j'allais dire, les plus pro-européens arrivent à l'est de l'Europe. Et là, c'est ce qu'on a eu parce qu'on a eu le maire pro-européen de Bucarest, Nicuzor Dan, qui a remporté le second tour de l'élection présidentielle. Et ce qui est intéressant, c'est pas qu'il l'ait remporté, c'est qu'il l'ait remporté face à un candidat nationaliste. Et donc, on aurait pu penser qu'effectivement, ce pays européen basculerait du côté d'un nationalisme, d'une droite très dure, exacerbée, le modèle Orban, etc. Et en fait, pas du tout. Encore une fois, à l'est de l'Europe, ce mouvement, ce contrebalancier et ce projet en fait, européen qui attire autant, si ce n'est plus, ces pays de l'Est de l'Europe.
Il faut noter quand même que ce balancier, vous dites, il a quand même viré à droite sur une première élection. C'est ce qui s'était passé. Et cette élection avait été invalidée. Il y a eu tout un imbroglio législatif là-dessus, puisque on avait parlé d'ingérence de plusieurs autres États, de plusieurs autres organismes. Enfin, le résultat de cette élection n'avait plu à personne. Et les Roumains ont dû retourner aux urnes. Et c'est vrai que, alors pas avec le même candidat de l'extrême droite, avec un autre candidat, mais un candidat tout aussi fort, en tout cas dans les sondages.
Oui, et puis d'ailleurs, ce qui s'était passé, c'est que le candidat de droite dure, fervent admirateur de Donald Trump, était d'ailleurs arrivé en tête du premier tour de cette élection présidentielle. Donc il était favori. Et le fait qu'il y ait cette inversion au second tour, c'est ce qui a aussi entraîné beaucoup d'accusations d'ingérence. Alors c'est allé loin, parce que même le fondateur, Christophe, de Telegram, Pavel Durov, a accusé notamment la France d'avoir cherché à censurer des voix qu'il qualifie de conservatrices en Roumanie, ce qui a été tout de suite démenti par le Quai d'Orsay. Mais effectivement, encore une fois, à l'ère des réseaux sociaux, des campagnes d'ingérence, du complotisme ambiant, on a failli avoir un score et un résultat qui n'est pas celui qu'on observe aujourd'hui. Mais le candidat de droite dure, de droite nationaliste, a concédé officiellement maintenant sa défaite. Et c'est donc un candidat pro-européen qui prend la tête de la Roumanie.
Est-ce qu'on souffle un air de soulagement au niveau des instances européennes, vous pensez ?
Bah, je pense que surtout,
même si tout est démocratique, hein, mais on parle simplement justement de mouvement à droite et surtout pas tellement au centre. Hein, c'est à droite et à gauche.
Oui, en fait, déjà, effectivement, au niveau de l'Union européenne, on souffle hein, d'avoir des candidats à la tête et maintenant des présidents ou des premiers ministres qui sont plutôt pro-européens. Et d'ailleurs, le candidat a été félicité par von der Leyen. Mais on souffle aussi d'une certaine façon, parce qu'on est capable de résister justement à ces politiques et à ces campagnes de déstabilisation au niveau des élections nationales. Parce que là, on a ce cas en Roumanie, mais il ne faut pas oublier que sur les élections françaises plane encore un peu le doute, et notamment via le Rassemblement national, d'une ingérence russe. Et donc, c'est presque une élection dans l'élection à chaque fois maintenant qu'on va devoir traiter. C'est comment est-ce qu'on fait quand des scrutins sont nationaux, que les enjeux sont nationaux, pour ne pas justement être à la solde de campagnes d'influence de puissances étrangères qui ont des agendas qui sont complètement différents. Parce que au-delà de ces accusations d'ingérence, Christophe, ce qui plane encore une fois évidemment, c'est le soutien à l'Europe versus un parti plutôt pro-russe ou en tout cas une droite nationale qui s'alignerait plus facilement sur des politiques anti-européennes, ça ne veut pas dire qu'elles seront forcément tout le temps pro-russes, mais en tout cas sur des politiques anti-européennes. Et donc, on va maintenant avoir de plus en plus ces espèces d'élections dans l'élection, en tout cas ces campagnes dans les campagnes, pour faire face à ces campagnes d'ingérence et au fait que des puissances étrangères veuillent, de manière nuisible, nocive, influencer sur le résultat, encore une fois, d'élections purement nationales.
Alors vous disiez, Georges Simenon, le perdant de cette élection, a concédé la victoire. Pourtant, il y a quelques jours, il y a deux jours, il demandait l'annulation pure et simple de l'élection, avec justement, vous le mentionnez, il accusait frontalement la France d'ingérence également. Qu'est-ce qui a changé dans son attitude? Pourquoi il concède maintenant l'élection? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'il y a eu des déclarations? Qu'est-ce qui a changé justement en deux jours?
Alors, déjà, au début, il accepte le résultat, puis après seulement, il fait volte-face. Les accusations, elles ne concernent pas seulement la France, il accuse aussi le voisin moldave, par exemple. Donc, ça va un peu dans tous les sens. Il fait un recours officiel devant les instances de son pays. Ce qui est aussi à noter, c'est qu'il n'y a pas eu d'incident véritablement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu en Roumanie vraiment des violences qui peuvent exister, qui pourraient justifier ce recours du candidat. Donc je pense qu'une des choses qui fait qu'il finit par réaccepter, c'est qu'il a le droit de contester le résultat d'une élection.
Oui, c'est tout à fait légitime.
C'est tout à fait légitime. Mais qu'en fait, il a été aussi très peu suivi par la rue. On a vu très peu d'images chez nos confrères français, européens ou même australiens de manifestations, etc. en Roumanie. Donc en fait, d'une certaine façon, il y avait un peu une espèce de geste désespéré ou d'étape par laquelle il faut passer de contester les résultats. Et je pense aussi, encore une fois, c'est dû au fait qu'il était en tête après le premier tour. Il se voyait déjà à la tête de la Roumanie. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, Christophe, il a très vite refait volte-face et réatterri sur la première position qui était celle de concéder sa défaite et donc de ne pas accéder à la présidence roumaine.
Si on extrapole un peu sur le sujet, est-ce qu'on peut dire, entre guillemets, avec des grandes guillemets, que aussi le résultat de cette élection, c'est un peu la fin de l'état de grâce de Donald Trump dans cette partie de l'Europe? Donald Trump, après son élection, il était encensé, surtout dans cette partie de l'Europe, hein, par beaucoup de la population. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est sur justement une fin d'état de grâce pour Donald Trump dans cette partie du monde?
Alors effectivement, le candidat de droite nationale roumain ayant comme modèle, et c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il déclare dans la presse, Donald Trump, c'est effectivement un mini-revers pour Donald Trump. Après, ça ne va pas changer la politique extérieure et ça ne va pas changer la relation des États-Unis.
Il est un peu plus sur sa planche en ce moment.
Voilà, il a d'autres sujets. Moi, ce que je trouve intéressant, surtout par rapport au cas roumain, et par rapport au profil pro-européen du candidat, c'est qu'en fait, si la Roumanie ainsi que la Bulgarie d'ailleurs sont rentrés dans l'Union européenne, sont membres de l'Union européenne depuis 2007, en fait, ils n'ont rejoint que l'espace Schengen au début de cette année 2025.
Ouais, c'est frais.
Et donc, c'est intéressant aussi parce que, on ne lit pas dans les boules de cristal Europa Voice, mais que serait-il arrivé à cet accès à l'espace Schengen si un candidat anti-européen de droite nationale avait accédé au pouvoir? Donc, d'une certaine façon, c'est aussi un élément de réassurance pour von der Leyen et pour l'Union européenne, de savoir que la Roumanie, en l'occurrence, qui est membre de l'Union européenne depuis 2007, mais accédant seulement en ce début d'année 2025 à l'espace Schengen, est à sa tête quelqu'un avec qui elle va pouvoir, et les différents dirigeants européens vont pouvoir collaborer.
Absolument. Allez, on fait une courte pause et on passe à un deuxième sujet dans l'Europa Voice tout de suite après ça.
Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
Deuxième partie d'Europa Voice, toujours avec Nathanaël Bloch. Nathanaël, on va parler maintenant du libre-échange et des accords de libre-échange avec l'Europe. On en est où? Ça fait un petit moment qu'on en parle. Je ne sais pas à quel épisode d'Europa Voice on en a parlé, mais ça fait un petit moment. C'est quoi le statut, cet accord de libre-échange en ce moment?
Alors, it's complicated.
J'aime bien la pause. Alors.
It's complicated, on dirait sur Facebook. L'Union européenne et l'Australie sont engagées dans des discussions, on peut parler encore d'accord, mais dans des discussions depuis la fin des années 2000. Pour faciliter les échanges et le libre-échange entre les deux pays. En 2018, officiellement, les négociations ont été lancées. D'ailleurs, on avait, c'est à ce moment-là après que le podcast Europa Voice s'est lancé, qu'on avait commencé d'ailleurs à traiter de ces accords.
Avec la visite d'Emmanuel Macron en Australie.
Avec notamment cette visite d'Emmanuel Macron
en
Australie.
J'y étais, j'ai même posé une question sur le terrain du Premier ministre australien. Enfin, c'est toute une autre anecdote sur cet libre-échange d'ailleurs.
Et depuis 2018, en fait, c'est effectivement compliqué. On en a une quinzaine de ce qu'on appelle de rounds de négociations entre l'Union européenne et l'Australie. Alors, ce qui se passe, juste pour nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS, c'est qu'à chaque fois, en fait, on doit se mettre d'accord. Un accord de libre-échange, c'est un énorme tableau Excel. Et dans ce tableau Excel, on met un petit peu tout ce qui fera partie de cet accord de libre-échange et tout ce qui ne fera pas partie.
Donc, il y a du vert et il y a du rouge.
Il y a du vert, il y a du rouge et il y a du orange. Et en fait, c'est sur le orange que c'est le plus compliqué. Exemple, et ça peut être des choses qui peuvent paraître très anecdotiques, mais c'est sur les appellations d'origine contrôlées.
C'est énorme, c'est pas anecdotique. Un camembert, c'est un camembert.
Un camembert, c'est un camembert. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va être sur des détails, vous avez raison, hein, Christophe, aussi petits que la provenance géographique. Qu'est-ce qu'on appelle champagne, qu'est-ce qu'on appelle mousseux, qu'est-ce qu'on peut appeler feta, qu'est-ce qu'on peut appeler camembert, etc. Et en fait, ces rounds ont...
Dans une culture australienne qui n'est pas du tout comme ça. C'est ça,
c'est ça la
chose. Australienne,
on vous parle de champagne alors qu'on met un mauvais sparkling à 10 dollars. Bon, ça c'est pour...
Ça c'est une autre... c'est un autre sujet.
Et donc en fait, ces accords étaient un petit peu au point mort. Et puis, il faut le rappeler aussi pour nos éditeurs d'Europa Voice, d'SBS, l'épisode des sous-marins avait effectivement mis un coup d'arrêt supplémentaire à ces discussions qui avaient déjà du mal à aboutir. Et puis, les changements aussi de... s'il y a une stabilité, ça il faut le reconnaître au niveau de l'Union européenne, puisque c'est le deuxième mandat de Van der Leyen, les mandats australiens sont beaucoup plus courts, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans de cela, c'était pas Albanese qui était le Premier ministre, il y a eu plusieurs Premiers ministres de partis d'ailleurs opposés. Et donc on était un petit peu à un point mort. Et puis là, Albanese, face aussi, et il y a un petit peu d'opportunisme de la part du Premier ministre australien, face aux difficultés de AUKUS, hein, donc des contrats de défense Australie, Angleterre, États-Unis sur ses sous-marins et sur la défense face à les difficultés, eh ben, il fait un petit peu marche arrière au Albanese, puis il revient un petit peu voir les partenaires européens, il re-rentre par la porte de la défense, il prend aussi prétexte évidemment de sa première visite papale pour aller voir Van der Leyen et donc pour, d'une certaine façon, relancer les discussions de ces accords de libre-échange par la lorgnette d'un partenariat en matière de sécurité et de défense.
Au moment où l'Europe elle-même se pose elle-même ces questions de défense au sein de l'Union européenne.
Au même moment, Christophe, vous avez tout à fait raison, où l'Europe, sur les questions d'indépendance stratégique, sur les questions de l'indépendance et de l'autonomie de défense européenne, elle sait, l'Europe aussi, que le parapluie américain est en train de se refermer s'il n'est pas déjà refermé. Donc, il y a une espèce d'opportunisme de circonstance de la part des deux, mais qui finalement est le bienvenu. Et donc, ces négociations d'un accord de libre-échange semblent remises sur le tapis. Et donc, on n'est pas à l'abri de conclure un accord dans les prochains mois entre l'Union européenne et l'Australie par rapport à ces accords de libre-échange.
On sort le mousseux ou on sort le champagne au moment où ça se fait, toi et moi?
Alors, je pense qu'on sortira les deux, on fera une dégustation à l'aveugle.
Si on revient juste sur la visite d'Anthony Albanese et la rencontre avec Van der Leyen, à quel point c'est important cette rencontre?
C'est très important parce qu'il faut aussi le préciser pour nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS, c'est qu'on a parlé d'ailleurs dans la première partie de cette Europa Voice de l'espace Schengen et donc de la libre circulation des biens, des matériaux, des personnes. Un pays comme l'Australie doit conclure des accords de libre-échange au cas par cas. Ou, à l'inversement, si on prend l'Union européenne, doit conclure des accords au cas par cas. Et donc, il n'y a pas que l'Australie, hein, d'ailleurs, qui est concernée.
On l'a vu, il y a le Canada aussi.
Il y a le Canada, il y a l'Inde. Il y a eu toutes les problématiques autour du Mercosur, avec notamment les questions agricoles. Donc, c'est extrêmement important, en fait, ces accords de libre-échange. Et puis, si on se place du côté australien, il ne faut pas l'oublier, hein, l'Australie, qui est un pays d'un peu plus de 25 millions d'habitants, si je ne m'abuse, peut potentiellement avoir accès à un marché de d'à peu près 500 millions de consommateurs. Donc c'est un marché qui est 20 fois plus grand que le marché australien. Donc vous imaginez bien, pour les producteurs australiens de certains produits spécifiques australiens, c'est une opportunité incroyable.
Et surtout, là, il faut le jeter aussi encore une fois dans la mare, mais Donald Trump et ses tarifs accélèrent aussi le besoin d'aller vendre du vin australien en Italie, par exemple, etc., etc., etc.
C'est exactement ça. Et d'ailleurs, on en a parlé dans un épisode précédent d'Europa Voice. L'isolationnisme américain est peut-être le meilleur remède pour que l'Union européenne reconsidère certaines de ses stratégies, notamment en termes d'autonomie de défense, notamment en termes de commerce et notamment en termes d'affaires étrangères. Donc, dans un mal ou en tout cas dans une période qui est compliquée pour l'Union européenne parce que en face, elle a un partenaire américain qui n'est plus forcément aligné avec la relation historique et Lafayette et son legs, c'est pour l'Europe une opportunité d'aller voir de l'autre côté. Et puis, ne l'oublions pas, on a parlé de votre question à Emmanuel Macron en 2018. Une des premières initiatives de géopolitique mondiale d'Emmanuel Macron, c'est l'axe, la stratégie Indo-Pacifique. C'est faire des nouvelles routes de la soie, des nouvelles routes de commerce, des nouvelles routes diplomatiques de Paris à Nouméa, en évitant la Chine, en passant par l'Inde et l'Australie.
Ah, c'était discuté en 2018,
c'était
je m'en souviens,
discuté,
comme si c'était hier.
Et donc tout ça, ça s'imbrique, tout ça est lié. Et donc c'est effectivement pour Emmanuel Macron aussi une certaine façon de close the loop, comme on dit en anglais, et puis de revenir sur ce qui est pour le coup objectivisé. Une des réussites d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir remis l'Indo-Pacifique à la place que cette région mérite, avec tout ce que ça a d'opportunités stratégiques de défense, de sécurité pour la stabilité, pas seulement de la région, mais pour la stabilité du monde.
Et c'est intéressant, juste pour revenir sur les tarifs et l'accord de libre-échange, on pourrait même presque rajouter une ligne sur le CV de Donald Trump comme un des grands fondateurs de l'Europe, puisqu'il a aidé avec son isolationnisme à peut-être sortir l'Europe d'une certaine situation et d'augmenter les accords de libre-échange avec plein d'autres pays où c'était un petit peu compliqué, comme l'Australie par exemple.
Exactement, c'est donc encore une fois, c'est un mal pour un bien. On va voir
indépendamment de son souhait. Hein,
mais... Voilà, non, mais on va voir aussi ce que l'Europe va être capable de faire pour exister face aux deux géants américains et chinois et mettre en place ces accords de libre-échange. Encore une fois, hein, ce qui a stoppé ces accords de libre-échange, c'est à la fois une non-entente sur tout un tas de sujets, mais c'est aussi, en toile de fond, cette histoire de sous-marin. Et donc, voilà, on est passé à autre chose. Le coup de poignard dans le dos, pour citer Jean-Yves Le Drian, si je ne m'abuse,
oui,
à l'époque.
Tout à fait, ouais.
Voilà, la plaie est effacée, c'est cautérisé et la France et l'Australie, l'Union européenne et l'Australie peuvent avancer.
Effacée, je ne sais pas, mais cautérisée, c'est sûr. Merci Nathanaël.
Merci Christophe.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.